Radio Okapi.
La présentation du journal, Jocelyne Moussaoupondé.
Début ce lundi de la session spéciale de l'examen d'État 2019 pour les élèves finalistes de Beni et du Sud-Ubangi. Plus de 5000 candidats sont attendus à ces épreuves. Le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies alloue 10 millions de dollars à la réponse au virus Ebola. Le chef du Bureau conjoint des affaires humanitaires l'a annoncé le week-end à New York. Les députés Mohindon Zangui est notre invité. Cet élu de Beni revient sur l'insécurité dans cette région et propose des solutions pour y mettre fin. Bonsoir. Lancement ce lundi de la session spéciale de l'examen d'État édition 2018-2019 pour les finalistes qui n'ont pas pu les passer en juin dernier dans le Sud-Ubangi. Sur 93 finalistes attendus, seuls 50 se sont présentés, pas à Dongo comme initialement prévu, mais plutôt à Botungu. Selon le ministre provincial de l'Éducation, les élèves de Bokona évoquent les difficultés liées à la distance de 120 km qui les sépare de Dongo, mais le ministre évoque des tensions entre les habitants de Botungu et de Bokona et des conflits politiciens qui manipulent non seulement les élèves mais aussi les populations de ces localités. Nerfi Mopila a été joint par Jean-Désiré Kanyama.
Je confirme que nos examens d'État a eu lieu à Botungu. Mais curieusement, ce matin, il y a eu un débat et les élèves de Botungu devaient quitter Botungu, venir à Dongo. Ils ont évoqué la question liée à la distance. Mais si 93 élèves, ils sont passés seulement 50 élèves. Donc, pour le moment, l'examen a eu lieu à Dongo concernant les premiers jours. J'ai posé la question de savoir, ils m'ont dit ceci, que les élèves de Bokona ont déjà passé l'examen. Et moi, comme ministre provincial d'éducation, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont passé cet examen d'État et où ils ont passé cet examen d'État.
Mais quelle est la raison principale que ces 43 élèves évoquent pour ne pas passer l'examen aujourd'hui?
Par le passé, j'avais parlé de la question liée au conflit tribal. Les Bokona ne veulent pas arriver à la localité Botungu. Mais après vérification par présomption d'intérêt, nous citons c'est une question liée au conflit politicien. Et Bokona et Botungu, l'une ou l'autre localité ne veut pas accéder à l'autre.
À Beni, dans le Nord Kivu, l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle, Nord Kivu 2, indique que plus de 5000 finalistes, dont 51% des filles, sont attendues à ces épreuves. Il annonce que toutes les dispositions ont été prises dans les 15 centres de Beni et Oicha pour empêcher une contamination ou une propagation de l'épidémie à virus Ebola. On écoute Ferdinand Lusolo au micro de Martial Papimukeba.
Nous nous attendons ici à Beni à 3414 candidats et à Oicha à 1808 candidats. Pour l'ensemble de cette sous-division, nous avons plus de 51,03% des filles. Il y a eu une forte déperdition, soit à cause de l'insécurité, soit à cause de la maladie Ebola, soit à cause du manque de frais et beaucoup d'enfants sont restés à la maison. Plus de 792 élèves qui ont abandonné. Dans tous les centres, nous avons des thermoflashs. Donc avant d'entrer au centre, nous prélevons les températures. Les élèves, ceux-là qui ont plus de 37 degrés de température, ils passent les examens, mais nous les mettons dans une autre salle. Mais à côté de ça, dans tous les centres et devant chaque salle, vous avez les dispositifs de lavage des mains. Pendant les épreuves hors session, il y avait 3 qui avaient passé les épreuves dans les CTE, les centres de traitement Ebola. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun élève finaliste qui est dans les CTE.
Et puis cet appel du maire de Beni à tous les chefs de centre de laisser tous les élèves finalistes passer les épreuves de la session spéciale des examens d'État 2018-2019. Nyoni Bwanakawa, qui a lancé cet appel ce matin au cours de la cérémonie du lancement de ces épreuves, insiste sur le fait qu'aucun élève ne doit être empêché de passer les examens pour n'avoir pas payé les frais scolaires ou de participation. On l'écoute au micro de Martial Papimukeba.
Au chef de centre chargé de la supervision de différents centres d'examen d'État. Les enfants ont été assez traumatisés à partir de ce que nous connaissons au niveau de la ville de Beni. Ça ne doit pas être une occasion aujourd'hui de leur rappeler certains devoirs qui incombent aux parents. Vous avez eu le temps de leur demander les frais scolaires et les frais de participation. Aujourd'hui jusqu'à jeudi, laissez les enfants passer les examens en paix. S'il pourra y avoir recouvrement, c'est après les examens. Chers enfants, je souhaite que la sous-division de Beni donne le meilleur lauréat des examens d'État en République démocratique du Congo.
Et à propos d'Ebola, puisque nous l'évoquions, sachez que le chef du Bureau conjoint des affaires humanitaires, Mark Lowcock, a annoncé le week-end à New York une contribution de 10 millions de dollars tirée du Fonds central d'intervention d'urgence pour fournir une assistance aux personnes touchées par les virus Ebola en République démocratique du Congo. L'argent octroyé par le CERF servira à renforcer la détection précoce de la maladie, à renforcer les mesures de prévention et de contrôle des infections, fournir un soutien psychosocial et nutritionnel aux personnes touchées et à renforcer l'engagement avec les communautés. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
En dépit de l'intensification de l'action menée par le gouvernement et des efforts héroïques des agents de santé sur le terrain, des membres de la communauté et des autres partenaires, la maladie n'est pas sous contrôle. Le risque de propagation, y compris dans les pays voisins, est très élevé, a fait remarquer Mark Lowcock dans une déclaration à la presse publiée par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Les fonds du CERF nous aideront à détecter davantage de nouveaux cas plus rapidement, à réduire le risque de propagation et à aider des personnes qui ont perdu un être cher, a souligné les chefs de l'humanitaire de l'ONU. Mais ajoute-t-il, nous avons un besoin de toute urgence que les bailleurs des fonds fournissent des financements soutenus à la riposte. Selon l'ONU, les outils de santé publique pour faire face à la maladie à virus Ebola sont meilleurs que par le passé, mais l'insécurité, la méfiance de la population et l'instabilité politique limitent leur efficacité lors de cette épidémie. L'ONU et ses partenaires continuent de travailler avec le gouvernement congolais pour créer un environnement favorable à la santé publique, notamment en matière de sécurité, de logistique, d'engagement politique et communautaire et d'action pour répondre aux préoccupations des communautés touchées.
Rendons-nous en Ituri. Reddition ce lundi des miliciens du groupe armé Force de Résistance Patriotique de l'Ituri à Zita ont été situés à 5 km de Gueti-Eta en chefferie de Walendu au sud d'Irumu. C'est le gouverneur de province Jean Bamanissa qui a présidé la cérémonie en présence de différentes autorités provinciales ainsi que de la MONUSCO. Sur place, environ 500 éléments de ces groupes armés ont déjà rejoint le site de pré-cantonnement. Dans son discours, le chef de cette milice, Adirodou Ombadou, a réitéré sa ferme détermination à poursuivre ces processus jusqu'au bout. Isaac Raymond.
C'est pour la première fois depuis sa prise des fonctions que le gouverneur Jean Bamanissa échange tête à tête avec les leaders du groupe armé FRPI. Le chef de l'exécutif provincial a tout d'abord remercié ses interlocuteurs pour avoir adhéré au processus de paix à sortant de la brousse. Concernant la feuille des routes du processus, Jean Bamanissa a déclaré que la phase du cantonnement des miliciens doit débuter dans tout au plus 2 mois. Une équipe mixte gouvernement FRPI MONUSCO doit se rendre dans une semaine pour faire un état des lieux du site de cantonnement dont les travaux de construction seront lancés très bientôt en vue d'accueillir les miliciens. Ces derniers y seront transférés par vague de 200-300 personnes, ce qui va permettre de passer à l'étape finale de démobilisation et réintégration au sein de l'armée nationale. Le chef de cette milice, Adirodou Mbadou, a adhéré à ces schémas. Il a mis en garde toute personne qui voudrait saboter ces processus. Il a annoncé la fin de la guerre au site d'Irumu en reprenant les slogans du gouverneur Toa Cheziaka pour dire fini la récréation. Des retours de guet Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au sud Kivu, la société civile de la plaine de la Ruzizi salue la permutation des unités des FRDC dans le groupement d'Itara Luvungi, Katogota et Lubarika. Depuis hier dimanche, le 123e bataillon spécial, le commando, a relevé à Lubarika le 3304e régiment, actuellement déployé entre Nyamutiri dans les moyens plateaux et Mulenge dans les hauts plateaux. Le président de cette société civile, Eric Mouvomo, souligne cependant que cette nouvelle unité commando des FRDC déployée à Lubarika et ses environs fera face à plusieurs défis sécuritaires. Fiston Goma.
La société civile cite la dernière attaque survenue la semaine dernière sur une plantation privée à Lubarika. Des hommes armés non identifiés ont tiré en l'air pour tenter d'enlever un exploitant qui se trouvait dans la ferme. Mais les membres du comité local d'alerte de la MONUSCO ont informé les FRDC qui sont intervenus. Après échange de tirs, l'un des assaillants a été capturé, les autres se sont enfouis. Au mois de juillet, un civil a succombé à ses blessures à l'hôpital après avoir reçu une balle tirée par des hommes armés non identifiés lors d'une incursion à Lubarika-Rupango. d'autres civils avaient été copieusement tabassés par les malfrats. Des échauffourées entre partisans d'un chef de groupement et un député provincial ont fait 4 blessés au mois de juillet. Les victimes se disputaient les droits de percevoir les taxes au marché de Louvungi. D'après la société civile, certains officiers de FRDC se sont mêlés à ces conflits de pouvoir, une situation favorisée par la non-permutation de ces officiers depuis plusieurs années et qui crée de l'insécurité. À ces défis s'ajoute le chômage des jeunes. De son côté, le commandant du 123e bataillon de FRDC, le lieutenant-colonel Gabriel Lusanga, dit compter sur la collaboration de tout le monde pour relever tous ces défis. D'Ouvira Fistongo Mamayabala, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, la police vient d'arrêter 5 malfaiteurs. Leur spécialité, l'enlèvement des filles et jeunes femmes grâce à leur voiture Toyota IST de couleur jaune immatriculée 7776BA-01. La police publie à cet effet des photos de ces personnes que vous pouvez voir notamment sur notre site www.radiokapi.net. Elle demande aux victimes qui les reconnaîtraient à se rendre à l'état-major du commissariat situé sur avenue Dracena, numéro 5, en face de l'ISC Gombe pour la déposition. L'appel est du commissaire divisionnaire adjoint de la police, le général Silvano Kasumu.
L'invité.
Notre invité est le député national Mouindo Zangi. Il nous parle de l'insécurité à Beni dans la province du Nord Kivu. Il propose au chef de l'État et au FRDC des opérations militaires mixtes afin de mettre un terme aux groupes armés qui sévissent dans cette partie du pays. Mouindo Zangi s'entretient avec Paul Matendo.
Mouindo Zangi, bonjour.
Bonjour.
Vous parlez de l'insécurité qui sévit à Beni, au nord de Kivu. Que se passe-t-il exactement?
Nous constatons une recrudescence encore une fois de tuerie, notamment à ville et territoire de Beni, pas seulement dans les deux entités, mais aussi à Goma. Et cette recrudescence de l'insécurité arrive juste après les élections, alors qu'il y a eu des promesses, puisque le chef de l'État est passé par là-bas, il y a eu des promesses à la population, qu'il va changer le commandement de l'armée, qu'il va pouvoir amener une nouvelle unité, qu'il va amener l'état-major à la ville de Beni pour pouvoir suivre cette question. Et ça nous inquiète, on se dit, mais les gens meurent tous les jours. Et on ne sait pas que l'alternance a pu apporter quelque chose de nouveau dans ce qui se passe et ça nous inquiète.
Pourquoi dites-vous que l'alternance au sommet de l'État n'est pas ressentie à Beni?
On dit que ce n'est pas senti, puisqu'effectivement, les mêmes méthodes, les mêmes réactions du gouvernement Kabila sont restées les mêmes avec ce qu'il dit. Vous savez que tout ce que nous avons reproché au gouvernement passé, c'était qu'il y avait des morts, mais il y avait le silence de l'autorité suprême, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuil, on n'en parle même pas dans les communications du président de la République. Et la deuxième chose, il n'a pas de réaction. Donc les assaillants, ils tuent les paisibles citoyens, mais on ne sait pas une vraie réaction de l'armée, on ne sait pas une vraie réaction du gouvernement pour pouvoir régler la question.
Lorsque vous parlez des assaillants, de qui s'agit-il exactement?
Et cet ennemi qu'on ne veut pas nous dire.
Qui doit vous le dire?
Ce sont les services qui doivent nous dire exactement de quel ennemi on parle. On parle des ADF jusqu'aujourd'hui, que ce soit la MONUSCO ou les gouvernements, personne ne veut donner la vraie identité de l'ennemi, bien qu'à une certaine période, le pouvoir a parlé de MTM pour pouvoir désigner un nouveau mouvement islamique qui se serait substitué aux EDF, mais c'est encore avec imprécision qu'elle nous a parlé. Alors on se dit, mais comment on peut combattre un ennemi depuis 2014 jusqu'à 2019 aujourd'hui, sans savoir exactement qui est l'ennemi qui tue? Et donc ça nous inquiète.
Selon vous-même, les unités des FRDC qui sont sur place sont fatiguées. Que proposez-vous alors?
Il y a eu deux rapports des commissions parlementaires que nous avons fait nous-mêmes sur place, pour lesquels nous avons constaté effectivement qu'il y a des unités qui ont été déployées en 2013 dans l'opération avec le général Bauma, jusqu'à maintenant se retrouvent là-bas. Comment les gens peuvent tenir un front pendant pratiquement 5 ans, 6 ans, sans être remplacés, sans être relevés, les mêmes troupes, les mêmes blessés, avec des bataillons ou des régiments qui ont diminué, divisé par 2 ou divisé par 3, puisqu'ils tuaient, puisqu'il y a des désertions, puisqu'il y a... Et nous avons été très contents quand le chef de l'État l'a promis devant la population de Beni qu'il va procéder à la relève des troupes qui sont sur le terrain, puisqu'ils sont fatigués. Et nous avons cru que ça allait se faire, mais ça ne s'est jamais fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le moral des troupes qui sont sur le terrain depuis très longtemps, qui dans la plupart des cas, ne s'occupe plus des opérations militaires, s'occupe plutôt d'autres choses, puisqu'il est devenu chef coutumier sur place. C'est là aussi et parmi les causes qu'il faut que l'ennemi se promène comme à promenade de santé dans cette région, Tuya et Pia.
Vous parlez également des rapports adressés aux autorités. Quel est le contenu de ces rapports?
Comme le dernier rapport n'a pas été discuté dans la plénière de l'Assemblée nationale, je ne peux pas vous en donner un contenu exact, mais en réalité, à bref, c'est que ces rapports ont démontré que les troupes qui sont déployées aujourd'hui sur le terrain ne sont plus à même de faire face à l'ennemi qui a pris le dessus. Nous proposons que le président qui est aujourd'hui en exercice puisse passer à l'acte. Il doit rompre avec ce que nous avons vécu avant. La première chose, c'est qu'il doit sortir de ce silence pour faire des actes de compassion envers la population. La deuxième chose, c'est qu'il doit passer à l'action, c'est-à-dire organiser des opérations militaires d'envergure à l'instar de ce qui avait été mené par le général Bahouma dans cette région. Nous sommes d'ailleurs d'accord qu'il recourt à des forces bilatérales comme les forces des UPDF ougandaises qui ont la maîtrise aussi du terrain pour que cette grande opération d'envergure se fasse comme une opération mixte entre les FRDC et les UPDF pour essayer de réduire les capacités des nuisance et la proximité de l'ennemi avec les grandes entités habitées par la population.
Mouindo Zangui, merci.
C'est plutôt moi qui vous remercie.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous d'avoir suivi.